Radio Okapi.
Clôture hier à Kinshasa par le chef de l'État des travaux des États généraux de la justice après 10 jours de réflexion. Félix-Antoine Tshisekedi s'est engagé à accompagner la mise en œuvre des résolutions issues de ces travaux. Plus de 359 recommandations ont été adoptées, mais le président du syndicat autonome des magistrats et procureur de la République se dit insatisfait de l'issue de ces travaux, tandis que l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires s'en réjouit, ainsi que les avocats. Dans ce journal, il sera aussi question de revenir sur l'une des résolutions principales de ces états généraux de la justice, autour notamment du Conseil supérieur de la magistrature. Le festival Amani a ouvert ses portes hier à Goma en Nord Kivu. Cette 10e édition met à l'honneur les talents artistiques de Goma afin de célébrer la richesse culturelle locale. Maître Nadine Saïba, avocate au barreau du Nord Kivu et défenseur des droits humains, est notre invitée. Elle est l'auteur du livre intitulé « Crimes de guerre à l'est de la RD Congo », livre exposé à la 10e édition du festival Amani qui se tient à Goma. Bonjour à tous. Notez d'abord que le président de la République séjourne depuis hier samedi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'est adressé hier à la population à la place de la Poste au centre-ville de Lubumbashi. Dans son adresse, le chef de l'État a promis aux jeunes de favoriser la création des emplois. Il les a aussi mis en garde contre toute manipulation des ennemis qui veulent déstabiliser le pays. Félix Tshisekedi est également revenu sur la problématique de la révision ou du changement de la Constitution, précisant que le changement de la Constitution envisagé n'a rien à voir avec un éventuel troisième mandat présidentiel. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
C'est pendant environ 30 minutes que Félix Tshisekedi s'est adressé à la population de Lubumbashi. Il a commencé par remercier les Louchois pour la confiance placée en lui lors des élections de décembre 2023 avant de revenir sur ses 6 engagements de campagne, notamment la création d'emplois au profit des jeunes. Au sujet de la sécurité, Félix Tshisekedi a indiqué que le pays est en danger et les jeunes sont la cible des ennemis qui veulent les manipuler. Et l'une des provinces visées par ceux qui veulent déstabiliser les pays est sans nul doute le Haut-Katanga. C'est d'un ton ferme qu'il est revenu sur les changements ou la révision de la Constitution. Pour lui, l'actuelle loi fondamentale contient certaines dispositions qui mettent en mal la souveraineté du pays.
Il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre souveraineté à des États africains.
Évoquant son annonce de Kisangani,
ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat ?
Ainsi, il a réitéré sa promesse de mettre sur pied l'année prochaine une commission qui réfléchira sur la révision ou les changements de la Constitution. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Avant son départ pour Lubumbashi, le chef de l'État congolais a d'abord clôturé au Palais du Peuple les travaux des États généraux de la justice qui se sont tenus durant 10 jours. À l'occasion, Félix Tshisekedi s'est engagé à accompagner la mise en œuvre des résolutions issues de ces travaux. L'objectif de ces assises était de poser le diagnostic de la maladie qui ronge la justice congolaise et d'en proposer une thérapie de choc. 359 recommandations ont été adoptées, dont celles se rapportant à la restructuration du Conseil supérieur de la magistrature. Les participants à ces travaux ont résolu de remplacer cette institution par le Conseil supérieur de la justice, présidé par le président de la République, et en cas d'empêchement de ce dernier, le Conseil supérieur de la justice devrait être présidé par le ministre de la justice. Ce n'est pas ce qui a été convenu. Réagissent négativement les syndicats des magistrats. Edmond Issofa, président du syndicat autonome des magistrats et procureur de la République, se dit insatisfait de l'issue des travaux et promet une prise de position de tous les syndicats dans les heures qui suivent. On l'écoute.
Mais les rapports tels qu'ils venaient d'être déclinés ne reflètent en rien la réalité. Vous avez été avec nous à la plénière hier, vous avez suivi chaque atelier faire son rapport. Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Mais moi je vous dis que ça ne correspond pas au rapport des ateliers. Du Conseil supérieur de magistrature à la plénière, au niveau de l'atelier qui s'est occupé de la question, il s'était dégagé qu'il fallait que les choses restent en l'état en attendant les options politiques. Et lorsqu'après discussion à la plénière, il avait été question de relever les deux positions et d'attendre à une option politique et de soumettre les problèmes à l'arbitrage du chef. Donc ça ne cadre pas avec ce qui a été dit, puisque les problèmes majeurs, c'est lesquels? On dit que la justice est malade. Nous sortons des assises. La question est de savoir, au sortir de ces assises, comment les conseils supérieurs de la magistrature doivent fonctionner. Si on veut changer la composition, il faut modifier la constitution. Les ministres ont parlé de l'article 152, mais ce n'est pas simplement l'article 152, mais également l'article 220.
Si les syndicats des magistrats ne sont pas satisfaits des résolutions issues des États généraux de la justice, en revanche, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires se déclare, lui, satisfait. Une des résolutions prises consiste en effet à renforcer le pouvoir de l'inspecteur et de l'étendre à tous les niveaux des services judiciaires. Et pourquoi pas contrôler aussi le ministre de la Justice, s'exclame de son côté Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice. Pour le premier avocat général et inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, cela a toujours été son souhait. On écoute Essabé Kamulete.
Bon, avec beaucoup de satisfaction, parce que on peut pas assurer l'inspection d'un service si on n'a pas de pouvoir de sanction, si les gens qui sont contrôlés ne craignent pas l'inspection. Je pense que par ces états généraux, on vient de donner à l'inspection générale des services judiciaires ce qui lui manquait. Donc, quitte aux animateurs de bien travailler pour dans l'intérêt d'une bonne justice, d'une bonne administration de la justice.
Est-ce que vous vous sentiez limité dans votre action?
Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours soutenu.
Les conclusions des États généraux de la justice constituent également un motif de soulagement du côté des avocats. Une des résolutions concerne la prise en charge de l'avocat pro deo, entendez, l'assistance judiciaire gratuite en faveur des indigents. Maître John Kavota.
Nous nous retrouvons toujours devant certaines difficultés en exerçant ou en assumant les dossiers pro deo sans pour que nous ayons au moins la prise en charge. Maintenant que cette résolution est prise en compte par le chef de l'État lui-même qui a pris un engagement solennel d'accompagner ces résolutions, nous pensons que nous pouvons contribuer efficacement à l'établissement et à l'administration de la bonne justice pour ceux qui sont vraiment démunis, qui n'ont pas les moyens de se rendre en justice ou de trouver un avocat. Au-delà de ça, nous sommes heureux de voir comment les assises se sont déroulées, mais je suis en train de souligner qu'il s'agit tout simplement des types d'hommes, c'est-à-dire il faut transformer les types d'hommes congolais et vous allez voir que tout ira. Nous pouvons avoir de très belles résolutions, mais si on n'arrive pas à transformer l'homme congolais, je pense que ça sera comme des lettres mortes.
Ce dossier sur la clôture des États généraux de la justice congolaise est signé Jeff Ngoy. Parlons à présent des résolutions phares sorties de ces travaux des États généraux de la justice congolaise et qui se sont clôturées hier samedi au Palais du Peuple en présence du chef de l'État. Ce dernier dit avoir instruit le gouvernement de débloquer des ressources matérielles nécessaires à la restauration de la justice congolaise. 359 résolutions ont été prises au total après 10 jours de réflexions en plénière et en atelier. Il ressort de ces travaux 3 réformes majeures, notamment la recomposition du Conseil supérieur de la magistrature et la suppression du visa des supérieurs hiérarchiques pour le prononcé des jugements par les juges inférieurs. Les violons ne se sont pas accordés sur ces 3 réformes, certains magistrats ayant estimé qu'il faut s'en remettre à l'arbitrage du magistrat suprême. Jeff Ngoy.
En ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature et qui devra devenir Conseil supérieur de la justice, selon le rapporteur général des travaux, c'est une minorité qui s'oppose à cette réforme. Les participants recommandent que cette nouvelle structure à créer soit présidée par le chef de l'État ou en cas d'empêchement par le ministre de la Justice. Cette restructuration impliquera la révision des articles 149 et 152 de la Constitution. Il faudra également réadapter la loi organique de cette institution qui devra intégrer les délégués de la société civile et des avocats. Une autre réforme qui fâche les magistrats concerne la mise du ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice qui devra superviser son action publique. Cela touche à l'indépendance du parquet. Or, d'après les panélistes, cette indépendance n'existait pas déjà du moment où le ministère public reçoit l'injonction du ministre. S'agissant de la suppression des visas de l'autorité judiciaire hiérarchique, il ressort des débats que chaque juge, avant de rendre une décision de justice au terme d'un procès, il doit préalablement recevoir le visa de son supérieur hiérarchique. Le ministre de la Justice plaide pour revoir à la hausse le budget alloué au secteur judiciaire de 2 à 5% minimum.
Direction le Kasaï oriental. Durant l'exécution des travaux de bitumage de la RN2, long de 280 km, les habitants des localités qui longent la route nationale numéro 2, axe Mbujimayi, Kabinda, Mbanga, dans la province de Lomami, ne doivent pas être victimes des violences basées sur le genre, VBG, d'exploitation et d'abus sexuels, EAS, moins encore de harcèlement sexuel, HS. Déclaration faite vendredi par le gouverneur de province de Lomami lors du lancement à Kabinda des activités liées à l'atténuation des risques et réponses multisectorielles liées aux violences basées sur le genre. Un reportage de Esther Dalafina, rendu ici par Étienne Lissoumbo.
Le gouverneur de la province de Lomami, Iron Van Kalombo, souhaite qu'il n'y ait aucun cas de violence basée sur le genre, l'exploitation d'abus sexuels et des harcèlements sexuels sur la population, plus particulièrement celle qui habite les longs de la route nationale numéro 2 dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la connectivité et au transport PACT. Ce projet de 52 mois consiste principalement au bitumage par une société chinoise d'une autoroute d'intérêt commercial sur les tronçons compris entre la ville de Mbujimayi dans la province de Kasaï Oriental via la ville de Kabinda jusqu'à dans la localité de Banga dans la province de Lomami. Docteur Placide Kayombo, coordonnateur de l'association pour le bien-être familial et naissance désirable, retenu pour le signalement des cas, promet d'intensifier la sensibilisation, la prévention et la prise en charge holistique des victimes des VBG, EAS et HS dans les zones d'intervention ensemble avec les leaders communautaires et les structures de la société civile. Tout auteur de violences basées sur le genre, l'exploitation, l'abus sexuel et les harcèlements sexuels sur les populations répondra de ses actes devant la justice, a affirmé Iron Van Kalombo, gouverneur de la province de Lomami.
À Goma, au Nord Kivu, le festival Amani a débuté hier samedi après-midi au village Ihusi, à Kituku, après l'annulation annoncée par le maire mardi et la levée de la mesure le vendredi. Pour cette édition, le festival met à l'honneur les talents artistiques de Goma afin de célébrer la richesse culturelle locale. Rachel Kessimbangu était sur place.
Les fanfares du Kivu ont ouvert le bal vers 13h passées et les activités ont ainsi été lancées. Musique, danse, art, tout est réuni pour la bonne réussite de ce 10e anniversaire du festival. Les artistes rencontrés sur place sont ravis d'y participer. Charmant Mwepa, bénévole depuis 8 ans, artiste danseur et membre du collectif Les Danseurs du Kivu, revient sur le fait que le festival Amani se veut un moteur culturel dans la région.
Je suis très heureux de participer dans cet grand événement qui m'a donné de l'expérience. Les 8 ans que j'ai passé avec Festival Amani, ça a contribué dans mon parcours culturel. En peu de mots, Festival Amani, c'est l'espoir. C'est la matrice de la culture en RDC.
Une belle occasion également pour les entrepreneurs de se faire connaître et de faire connaître leurs produits. C'est le cas de Aksanti Chamamba, fondateur de Butamo, entreprise spécialisée dans la bouillie pour enfants. Il est venu expressément de Bukavu pour le festival.
C'est une opportunité pour nous parce que moi, entrepreneur, je peux venir exposer mon produit. Moi, je vends de la farine. Il y a une maman qui peut passer et son enfant a des problèmes par rapport à son alimentation. Directement, je peux intéresser cette maman, elle peut acheter nos produits.
Signalons que c'est sous un ciel pluvieux que le festival a débuté ce samedi. Goma, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
En Ituri, parlons de la route nationale numéro 44 qui est en très mauvais état. C'est surtout le tronçon compris entre Makeke à la limite avec Bénionor Kivu et Mambasa Centre, long d'environ 80 km. Des gros bourbiers se sont formés et rendent la route impraticable. Des usagers déplorent des accidents qui endommagent leurs engins ainsi que des pertes des marchandises alors que selon eux, à chaque passage, ils payent la taxe du péage routier auprès de l'attributaire. Sadiq Aboubakar pour les détails.
Plusieurs grands bourbiers se sont créés sur la route Makeke-Mambasa depuis quelques mois. C'est notamment à Kalongé, Luemba et avant le pont Ituri. Avec la saison pluvieuse, fréquenter cette route ressemble à un parcours du combattant. François Mwanza, un des usagers, déplore le manque de sérieux dans la maintenance de cette route par son attributaire, qui pourtant perçoit au quotidien la taxe de péage routier.
C'est tout au début, quand notre attributeur avait eu la route, qu'il avait pris courage le temps d'essayer un peu de bien faire. Mais depuis lors, en tout cas, il ne s'en occupe plus. Nos chauffeurs souffrent, l'état de la route n'est pas bon, et surtout nous sommes pendant la période pluvieuse. Donc il y a des trous, les véhicules tombent par-ci par-là. Dès que le véhicule est tombé, il faut avoir des militaires pour les garder, c'est payable. Pour élever les conteneurs, il faut encore décharger, et quand on décharge, il y a des marchandises déjà qui sont perdues, et les commerçants sont en train maintenant de supporter les coûts là.
Nous avons tenté d'avoir la réaction de l'attributaire de cette route nationale, mais sans succès. Le porte-parole du gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, promet de s'imprégner de la situation avant de se prononcer. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le premier ministre civil du Mali, Choguel Kokala Maïga, a appelé hier les chefs militaires du pays à discuter de la fin de la période dite de transition. Le pays est dirigé par les militaires depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021. En juin 2022, la junte s'est engagée à organiser des élections, puis à remettre le pouvoir aux civils avant fin mars 2024, mais elle a ensuite reporté la tenue du scrutin pour une durée indéterminée. En mai, le mouvement M5RFP a publié une déclaration critiquant ouvertement les dirigeants militaires après qu'ils n'ont pas respecté le délai qui leur était imparti pour rendre le pouvoir aux civils. Un allié de M. Maïga qui a signé cette déclaration a été condamné à un an de prison en juillet avant d'être libéré en septembre, sa peine ayant été commuée.
L'invité.
Crime de guerre à l'est de la RD Congo, c'est l'un des ouvrages exposés à la 10e édition du festival Amani qui se tient à Goma, un livre qui apporte un message de paix. Selon l'auteur, ce livre se veut un ouvrage de plaidoyer. Cette œuvre retrace son expérience de terrain dans l'accompagnement des victimes des crimes de guerre pour arriver à une justice réparatrice. Nadine Saïba, avocate au barreau du Nord Kivu et défenseur des droits humains, affirme vendre ses livres pour que les fonds contribuent à soutenir les enfants dans les camps de personnes déplacées. Un entretien avec Rachel Kessembango.
Bonjour madame.
Bonjour, je suis défenseur de droits humains. À ce titre, je suis en train de participer au festival Amani pour justement apporter un message de paix, un message d'espoir au travers de mon livre « Crimes de guerre à l'est de la RDC ». Le récit et le son tirés de mon expérience de terrain. Justement, le festival Amani rencontre la résultante de mon ouvrage qui est un livre plaidoyer qui retrace mon expérience de terrain à travers l'accompagnement des victimes de crimes de guerre afin d'arriver à une justice réparatrice.
C'est quoi justement cette expérience que vous partagez, les grandes lignes en tout cas, que vous partagez à travers votre livre « Crimes de guerre à l'est de la RD Congo ».
Je parle en fait de l'action de coordination pour arriver à la lutte contre l'impunité des crimes graves commis en l'est de la RDC. Pour moi-même avoir été actrice de terrain au premier plan, j'ai accompagné les victimes de crimes graves, quand j'ai dit crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Et j'ai été aux côtés des victimes depuis la phase de protection, consultation, enquête, jusqu'au procès. Et les grands procès emblématiques ont démontré la preuve du lien entre les communautés qui sont aux côtés des victimes lorsque les conflits armés sont en train de se commettre, jusqu'à la phase juridictionnelle où les acteurs judiciaires aussi doivent jouer leur rôle. Et donc c'est cette intermittence entre la communauté et les acteurs qui a constitué justement un sujet de réflexion pour dire que la coordination n'est pas seulement institutionnelle et non institutionnelle. À la fin, je suis en train d'appeler de tous mes voeux qu'il y ait une justice et de tous mes voeux, les justices transitionnelles constituent un rempart aujourd'hui où les réformes sont en train d'être appelées de tous les voeux des acteurs.
Quel est le message que vous voulez passer à travers ce livre pour tous ceux qui vont visiter votre stand? Quel est le grand message en rapport avec le festival que vous allez lancer?
Déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Il y a une découverte. L'art va parler, mais la lecture aussi va parler. Et nous sommes en train de parler du vécu. C'est une histoire vraie, des choses qui se sont commises et dont nous avons été témoins. Je demanderai aux uns et aux autres, au-delà de la musique, au-delà de la résilience, il faut connaître l'histoire de la justice qui a été mise en œuvre par les acteurs de plusieurs ordres en République démocratique du Congo. Mais aussi, la communauté internationale devrait savoir justement qu'il y a un rôle qui a à jouer et des recommandations ont été présentées dans cet ouvrage afin justement que la paix puisse constituer un rempart.
Qu'est-ce que nous pouvons savoir sur quelques recommandations que vous faites à travers votre ouvrage?
D'abord, la société civile a un rôle à jouer à travers l'observation, à travers la dénonciation, mais aussi à travers le rapportage. Les institutions, je vois le gouvernement doit jouer un rôle crucial parce que la justice est un domaine de souveraineté. Et la justice, comme nous venons de sortir même des états généraux, c'est cette justice qui élève une nation. Que les gens lisent ces livres, puissent s'en approprier, les étudiants, les praticiens. Mais c'est un livre qui est vraiment comestible et qui a été écrit, rédigé dans un français accessible.
Non seulement vous exposez, mais vous vendez vos livres. Pour quelle fin ?
Je suis en pleine vente d'ouvrages. C'est un ouvrage qui coûte $50. Mais pour la paix, c'est un vent de paix. Et je le mets à $20 pour que le fonds puisse contribuer justement à soutenir les enfants qui sont dans les camps des déplacés et qui sont victimes des affres de la guerre. C'est une manière pour moi de joindre justement l'expérience que j'ai eue en étant sur le terrain et rencontrer justement en apportant une réponse adéquate aux difficultés liées au social des enfants qui vivent dans les conflits armés. Voilà.
Maître Nadine Saïba, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est par ici que prend fin ce journal, mis en onde par Polydor Basunga, coordonné et supervisé par Jude Mister Bilanda à la présentation. C'était Noëlla Luzitu Kabambi. Merci à vous tous de nous avoir suivis.